si on est animé d'un esprit de découragement et de défaite, on va dire, il n'y a rien de bon dans ce pays, on ne va pas changer les choses. C'est sûr. On ne va pas changer. Il nous faut aimer notre pays et prier avec faim et avec soif et avec foi. Et il nous faut combattre en permanence cet esprit d'incrédulité, cette incrédulité. En permanence, il faut combattre. Combien une prière de foi dans un groupe, dans une assemblée peut édifier, fortifier, mettre en route. Combien une prière de découragement, à l'inverse, peut entraîner les autres vers le bas. Voilà les F qui doivent nous caractériser. La marque du chrétien, comme le F est la marque de l'identité française d'un véhicule. Le F de faim et le F de foi, c'est la marque du chrétien. Alors maintenant que j'ai dit cette disposition de cœur, je voudrais vous dire les deux objectifs que je sens que Dieu veut que nous atteignions et qui rejoignent d'ailleurs les objectifs de l'Église qui sont affichés là derrière. C'est important hein, de comprendre où est-ce que Dieu nous emmène. Où est-ce que Dieu nous emmène? Lisez régulièrement cette feuille qui parle des objectifs de l'Église. Et ces deux objectifs rejoignent. Alors c'est pour notre Église, mais c'est peut-être pour l'Église de France en ce moment aussi. Deux objectifs. Le premier, je crois vraiment que Dieu veut dire à l'Église de France et à chaque membre qu'il nous a mis dans un corps. Qu'il nous a mis dans un corps. J'ai l'impression que l'Église de France, nous devons le confesser, a oublié cela. Nous sommes dans un corps. Quand nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous a mis dans un corps. Il ne nous a pas seulement mis dans une église locale, il nous a mis dans un corps. Et tout ce que j'ai lu cette semaine, bien sûr, j'ai pris un livre sur ce thème. J'ai un livre ici, La réalité du corps du Christ, Watchman Nee. Mais d'autres livres sur d'autres thèmes me ramenaient à ce thème aussi. John Mulindé me ramenait. Paul John Jackson, que j'ai lu un livre sur le combat spirituel, me ramenait à cette réalité là aussi. Et depuis 2-3 mois, sans arrêt, c'est quelque chose que le Saint-Esprit, sans arrêt. Celui-là. La réalité du corps du Christ. Watchman Nee. Alors j'ai eu un songe cette nuit. Ouais, encore un. En ce moment, ça y va. Et quand au moment où je l'ai eu, où je m'en suis réveillé, je n'ai pas du tout pensé que le Seigneur voulait me parler. C'est au moment où je préparais mon message que le Saint-Esprit a dit, Jean-Luc, tu veux te rappeler le songe que tu as eu cette nuit ? Quel est ce songe que j'ai eu? Un peu bizarre, comme tous les songes. Hein. Et dans ce songe, je me présentais pour être embauché dans une entreprise. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça va se concrétiser. J'en sais rien du tout. Et je me présentais. Et alors, il y a deux choses qui caractérisent mon songe et cette visite. Deux choses. C'est, curieusement, au départ, cette entreprise me paraissait toute petite. Je voyais qu'un, à la limite, une pièce comme celle-ci, un atelier, quelques personnes. Au départ, c'est comme ça que je voyais l'entreprise. Et alors bon, j'ai parlé avec différentes personnes, je n'ai pas rencontré le patron, je l'ai vu un peu plus tard, enfin je crois avoir reconnu un patron, quelque chose me disait que c'était le patron, mais bon. Mais il ne m'a pas rencontré. Mais il y avait comme un guide invisible qui m'a amené à découvrir l'entreprise et au fur et à mesure de ma visite, je découvrais que c'était une énorme entreprise, énorme. D'un seul coup, je voyais des parcs immenses avec des enfants qui jouaient. Et je voyais qu'il y avait toutes sortes d'activités dans cette entreprise. On fabriquait des vêtements. Et donc il y avait des enfants et puis il y avait des gens aux cheveux blancs. Il y avait toutes les générations. Énorme, une entreprise énorme. Plein d'activités. Des activités d'éducation aussi pour les enfants, de restauration, d'adolescents en difficulté. On fabriquait des vêtements. Oui, tout ça, je me souviens très nettement, dans cette entreprise. Alors, curieusement, personne ne m'a parlé d'embauche et personne ne m'a dit pourquoi j'allais être embauché. Et moi-même, je ne savais pas ce que j'allais faire là-dedans. Curieusement. Puis le rêve s'est arrêté là. Je vous dis, quand j'ai eu ce rêve, je me suis dit, tiens, bon, c'est quand j'ai préparé mon message, j'ai senti que le Seigneur voulait me parler du corps à travers ce songe. Du corps du Christ. On avait l'impression dans cette entreprise que personne ne se souciait de la fonction que j'allais établir, mais qu'il fallait, la préoccupation c'est que je découvre l'entreprise. Que je découvre, que j'ai une vision de l'entreprise et du corps. Alors, appliquons, je veux dire, au sens spirituel, nous avons un patron, Jésus-Christ. C'est la tête du corps. Et quelle est sa préoccupation quand on rentre dans le corps ? C'est qu'on sache où on est. C'est qu'on sache où on est. Qu'on ait une vision de ce corps. Quelle est souvent notre préoccupation ? Ah !
Quelle sera ma fonction ? Non pas que le Seigneur n'a pas une fonction pour chacun d'entre nous, bien sûr.
On a une fonction et une place. Mais c'est notre esprit tellement individualiste qui nous donne un mauvais regard des choses sur les choses et sur le corps. La préoccupation de mon patron, c'est que j'arrête de regarder trop mon nombril, mais que j'ai une vision de l'ensemble, du corps. Et s'il y a un objectif que Dieu veut atteindre, j'en suis sûr, dans cette Église en France, c'est qu'elle réalise que Dieu nous a mis dans un corps. L'Église est affaiblie par cet esprit individualiste. Elle est affaiblie par cet esprit individualiste. Dieu veut remettre en place nos priorités. Et que la priorité, c'est que j'ai cette vision du corps. Que Dieu m'a mis dans un corps et que je dois obéir aux lois du corps. Être soumis à la tête. Le corps du Christ, le Jésus-Christ, c'est lui la tête, hein ? Être dans une relation harmonieuse avec lui et avec le reste du corps. Si je discerne le corps, je recherche la communion avec le corps. Je recherche la communion avec le corps. Jésus nous dit, quand vous vous réunissez pour le repas, ou c'est Paul qui dit, discernez le corps du Seigneur. Discernez le corps du Seigneur. Et donc je lis ce passage que j'ai lu déjà quelques fois ces 2-3 derniers mois, je ne m'en excuse pas. Éphésiens 4, verset 16, il faut quand même prendre la parole de Dieu, bien entendu, pour appui. Hein. Éphésiens 4, verset 16. de lui, Christ, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent. C'est un mot qui sans arrêt me vient à l'esprit, ce mot cohérent. Cohérent, soyons cohérents. Hein ? Verset 16, « Grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » Le corps. Nous avons besoin en tant qu'Église d'être guéris de notre individualité, hein, qui fait que nous regardons certainement trop à notre nombril. Hein. On a besoin d'une nouvelle révélation, je crois. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire dans ces temps en France. Une nouvelle révélation du corps. D'être réconcilié avec la tête. En obéissant aux lois du corps. Le grand apôtre Paul, aussi grand qu'il était, tout de suite était mis au diapason, hein, tout de suite, dès sa conversion. Jésus lui parle et dit... « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce n'est pas des chrétiens que tu persécutes, c'est mon corps. Et lui, le grand apôtre, a dû se laisser guider par un illustre inconnu dans la Bible, Ananias. On n'en a pas connu. Mais il a dû suivre ses instructions. Et Ananias a dû lui imposer les mains. Avant qu'il retrouve la vue. Le grand apôtre Paul a tout de suite été mis au fait de la réalité du corps du Christ. Même le plus petit, le plus insignifiant d'entre nous a sa place dans le corps. Il y a un chapitre dedans passionnant sur l'imposition des mains comme un signe de la conscience du corps. Vraiment, je n'avais jamais vu sous cet angle-là. Même le grand Philippe, qui était d'abord quelqu'un qui servait aux tables, est allé évangéliser en Samarie, accompli des miracles. Mais même après cela, les Samaritains ont dû recevoir l'imposition des mains des apôtres de Jérusalem. Il fallait qu'une liaison entre les sauvés de Samarie et les sauvés de Jérusalem pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je lis là deux, trois pensées de Watchman Nee. Hein, je vous les lis rapidement là, ici. Donc page 69, on va lire ça tout de suite. Bien souvent, l'œuvre du Saint-Esprit en nous nous amène à nous soumettre à quelqu'un d'autre et à accepter l'aide des autres. Si nous n'acceptons pas l'aide des autres, nous passerons à côté de bien des choses que le Seigneur a pour nous. Certains chrétiens décident de tout d'après leurs appréciations personnelles. Où est donc le corps ? Ces croyants vivent entièrement dans l'individualisme. Ils ne discernent pas et n'expérimentent pas le corps. À un autre moment, il dit ceci : nous devons absolument comprendre que le Saint-Esprit est l'esprit du corps indivisible, pas l'esprit d'un individu. Ainsi donc, il est fondamentalement mauvais de rechercher le Saint-Esprit uniquement pour soi-même. Uniquement pour soi-même. Et il en est également au niveau de la protection. Ici, bon nombre de nos défaites et de nos échecs spirituels peuvent être attribués à nulle autre raison qu'au fait que nous agissons seuls, sans la protection du corps. Par nous-mêmes, nous ne sommes chacun qu'un membre du corps, et en conséquence, nous ne pouvons vivre sans la protection des autres frères et sœurs. Même les mains de Moïse ont eu besoin du soutien d'Aaron et d'Or. Si Moïse lui-même a eu besoin d'être soutenu par d'autres membres, qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Je suis convaincu que l'instrument que Dieu cherche en France, c'est un corps. des hommes et des femmes, conscients de la réalité du corps du Christ. Et un autre grand apôtre dit ceci, écoutez bien, s'il s'agit de John Mullinder, et qui a vraiment une autorité, et qui a vraiment été vraiment un homme dont Dieu s'est servi pour la nation d'Ouganda. Alors attention, c'est un petit peu ce qu'il dit, attention. Page 25, oui. Nous devons apprendre un nouveau style de vie. Voulons-nous vraiment construire le royaume de Dieu afin que le nom du Seigneur soit glorifié? Ou bien aimerions-nous être admirés et utilisons-nous le Seigneur comme prétexte? Ouh, attention à nos motivations. Pourquoi nous faisons les choses? Si nous voulons... Si des coéquipiers, quel que soit leur don, veulent seulement progresser, écoutez bien, dans leur propre vocation, mais ne sont pas prêts à soutenir la vision de la communauté, ils cessent d'avancer et peuvent même devenir un élément perturbateur. Si nous ne nous occupons que de développer notre propre appel et notre ministère spécifique et ne nous préoccupons pas de l'appel plus large qui repose sur la communauté, sur la région, sur la nation, nous nous arrêterons à certains moments et nous n'avancerons plus. Aucun service, aucune communauté, et là ça parle du danger des églises qui sont isolationnistes, isolées, le réveil ne passera que par mon église. Certains pensent, quelle erreur. Aucun service, aucune communauté, aucune dénomination ne possède tous les dons qui sont nécessaires pour l'accomplissement de l'œuvre. Tant d'hommes et tant de ministères ont avancé en solitaire et se sont finalement heurtés à un mur. Le fort doit aider le faible. Il faut qu'ils s'allient et avancent ensemble. On ne peut réaliser une telle unité par des principes d'organisation, mais seulement par un esprit de service. Voilà. Chacun de nous pouvons réfléchir, méditer à ces choses. Voulons-nous réaliser que Dieu nous a mis dans un corps? Et je crois que c'est vraiment le chantier de Dieu. Et je veux en faire mon chantier aussi, dans la prière, dans l'enseignement peut-être, par la suite. Je veux privilégier cela dans l'Église. Et je veux vraiment, et je crois que certains l'ont senti individuellement, j'ai contacté plusieurs aussi à ce sujet, je veux mettre ce désir, cette fin de que chacun nous soyons couverts et nous nous couvrons les uns les autres dans la prière. Ouais. Moi-même, j'ai sollicité la prière parmi vous. Annette et moi, nous avons besoin de vous. On a besoin les uns des autres. Et si notre église marche, une église marche dans cette guérison-là, waouh, ça va donner. Et c'est vraiment le chantier de Dieu, c'est vraiment un objectif que Dieu a pour nous, je le crois. Deuxième objectif, résumé par cette parole dans Romains, et je pense 10 minutes devraient suffire pour ce dernier objectif. Oui, je vais essayer. Romains 8. Versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça parle de la prière. Là, on est au cœur de la prière. Et là, qu'est-ce que ça dit ? Nous ne savons pas prier. Alors si, souvent vous faites des complexes en disant « je ne sais pas prier », eh bien, la Bible dit « non, on ne sait pas prier ». On ne sait pas. Mais, je vous pose la question, est-ce que vous expérimentez cela ? C'est-à-dire qu'à certains moments, il y a des soupirs inexprimables qui viennent en vous. Ouais. L'esprit qui se met à intercéder en vous. Alors je dois confesser que c'est rare pour moi. C'est rare pour nous peut-être, pour vous aussi. Et on a besoin d'apprendre. De précurseurs, des gens qui sont passés derrière nous. Et je suis convaincu, pour moi, John Mulindé et ses Ougandais sont vraiment des modèles. Parce qu'ils ont su prier pour transformer la nation. Nous cherchons des modèles, en voilà. De leur cœur s'est élevée une prière qui a transformé leur nation. Plus de 60 personnes parmi le Parlement qui sont au Seigneur, des chrétiens engagés. Le président de la République qui a donné sa vie à Jésus. Et qui, à un moment, lors d'une cérémonie, a pris le drapeau de l'Ouganda et l'a donné aux mains des intercesseurs. Imaginez Jacques Chirac qui prend le drapeau de la France et le remet aux mains des intercesseurs en France. Alors dites-moi, un homme comme ça a quelque chose à nous dire au niveau de la prière. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Et je crois que c'est un deuxième objectif que Dieu nous fixe pendant ces 40 jours. Il veut élever notre niveau de prière. Il veut nous amener à la prière du pardon. Je vais expliquer ça. À la prière dans le sanctuaire. Alors qu'est-ce que c'est là ? Vous connaissez la marche du souverain sacrificateur qui va dans le parvis, puis va dans le lieu saint, sanctuaire, puis va dans le lieu très saint. Mais que dit la parole de Dieu ? Nous sommes des prêtres tous en Jésus-Christ. Nous sommes des prêtres en Jésus-Christ. Et Dieu veut nous amener de la prière du parvis, et je vais expliquer, je l'ai entendu par un homme, comme ça. Il veut nous amener de la prière du parvis à la prière du sanctuaire. Alors là, je vais m'effacer. Et simplement lire ce que John Mulindé dit à ce sujet. D'accord ? Écoutez bien. Il explique. Et je prie que ça vous donne faim d'aller plus loin. C'est vraiment un objectif que Dieu veut pour nous, si on veut notre nation transformée. Voici ce qu'il dit. Notre prière commence dans le parvis du temple. D'abord, nous prions avec notre raison et nous nous répétons souvent. Nos pensées vagabondent dans toutes les directions. C'est pas ça, c'est nous ça. Hein ouais. Et nous sommes distraits par des problèmes, les situations et les confrontations de notre quotidien. On essaye de persévérer dans la prière, mais on a souvent l'impression de ne rien faire d'effectif et de perdre notre temps. Est-ce que c'est le moment d'arrêter parce que vous sentez ça ? Certainement pas. Non. Sinon, vous n'irez jamais plus loin. Ouais. Ici, dans le parvis, nos pensées tournent encore beaucoup autour de nos difficultés, nos intentions et nos soucis quotidiens. Nous devons tenir notre attention fixée sur le Seigneur. Dans le parvis, nous ne sommes pas coupés du monde environnant et ce monde nous est encore très présent. Et comme les forces démoniaques ont accès dans le parvis, c'est un lieu de distraction. Peu avant la percée, l'ennemi va souvent tout essayer pour nous distraire. Le téléphone qui sonne, l'idée d'un petit pain nous appâte, et nous avons tout à coup soif. Et si à ce moment-là nous interrompons notre prière et la reprenons plus tard, nous devrons la recommencer depuis le début, ce qui est très frustrant. Dieu honore cela lorsque nous venons à lui avec la disposition de faire tout ce qu'il veut et de déposer tout ce qui nous préoccupe, afin de pouvoir venir près de lui et qu'il nous rencontre. Souvent, nous devons confesser devant lui beaucoup de choses et nous soumettre à une purification. Purification, hein, dans le parvis. Ouais. Souvent, Dieu utilise nos demandes dans ce but. Par exemple, nous prions pour nos enfants et Dieu nous montre que la racine du problème est en nous. Cela ne sera pas toujours facile. Mais si nous persévérons dans la prière, nous atteindrons un point où notre prière se transformera et deviendra intense. Elle jaillira de notre esprit et non plus de notre raison. Ah là, Romains 8. Tout notre être qui prie Dieu, et les mots jaillissent de nous, la foi sort du plus profond de notre être, et Dieu nous inspire comment prier. Nous avons quitté le parvis, et nous pénétrons dans le sanctuaire. C'est le lieu de la prêtrise, dont la Bible nous dit que l'on ne sait pas comment prier, mais que le Saint-Esprit vient à notre aide par des soupirs inexprimables. C'est là que commence la prière des douleurs de l'enfantement, la prière qui met en éveil des nations. On commence à voir les choses comme Dieu les voit, on ressent certaines choses comme Dieu les ressent. À ce moment-là, notre vision sur les situations et sur les hommes change. Elle n'est plus troublée par nos propres concepts et idées. Au contraire, nous voyons les choses dans la perspective de Dieu, à la lumière de sa vérité. L'amour de Dieu pour les hommes touche notre cœur et nous crions des profondeurs de notre cœur vers Dieu. Le Saint-Esprit nous dévoile le cœur du Christ et nous ressentons dans la prière l'amour de Dieu. Le fardeau et les douleurs pour les perdus. Nous tombons sur notre face et nous nous tordons des douleurs de l'enfantement, parfois bruyamment, parfois en silence. Cette manière intense de prier résulte de notre total abandon à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit prend en charge la prière et produit des soupirs, des gémissements, une repentance et une intercession telles que nous serions incapables de produire nous-mêmes. Et parfois nous plaidons pour une situation comme un avocat professionnel et nous nous demandons d'où vient cette facilité d'expression. D'autres fois nous sommes totalement brisés, désemparés et nous présentons simplement à Dieu sa parole. Ou bien il monte en nous une sainte colère contre les plans de destruction de Satan et nous entrons dans le combat spirituel. Lorsque le Saint-Esprit agit par nous de cette manière, nous savons des profondeurs de notre Dieu que le Seigneur est avec nous et que nous parlons avec son autorité. Une prière authentique se déroule toujours dans le sanctuaire. Et parfois le Saint-Esprit se meut si fortement que ça ne s'arrête pas là et que nous glissons imperceptiblement dans le Saint des Saints où nous sommes terrassés par la présence de Dieu. Cette présence de Dieu sur nous, c'est comme s'il mettait son bras autour de nous et nous enveloppait d'un manteau. Les problèmes sont emportés au loin. Il nous communique une paix indescriptible et une joie qui nous satisfait très profondément. Notre cœur fond et parfois nous pleurons simplement. Aucun démon ne peut pénétrer ce lieu. Lorsque Dieu nous parle à cet endroit, nous savons qu'il ne peut s'agir que de lui. Et si ensuite nous quittons sa présence nous accompagne. Elle est en nous et sur nous. Vous aspirez à cela ? Nous aspirons à cela ? C'est comme un feu. Et ce feu produit en nous cette prière incessante de la sentinelle. Aucun effort humain ni aucun enseignement ne peuvent susciter cela. Plus souvent et plus longtemps nous passons du temps dans le Saint des Saints, plus la présence de Dieu est en nous et sur nous demeure ferme et constante et nous transforme. Et lorsque des hommes sans cœur et pleins de résistance à l'égard de l'Évangile s'approchent de nous, ils fondent. L'aveuglement spirituel disparaît, les chaînes sont brisées, ils sont transformés et écoutent le message. S'ils s'éloignent, ils s'en diffuseront encore plus. Cependant, si nous prions pour eux directement dans le secret, une onction peut les accompagner et les transformer. Si nous désirons apporter ce type de prière dans notre paroisse, cela ne se fera pas en un jour, eh oui, ni en une semaine, ni même en un mois. Mais si nous persévérons, nous ferons une percée. Une fin spirituelle est la clé pour y parvenir. Avons-nous cette fin ? Avons-nous cette fin pour aller du parvis dans le lieu saint et du lieu saint dans le Saint des Saints ? Plus il y a de chrétiens dans une région qui prie de cette manière, plus la couverture des ténèbres spirituelles sera percée et plus la présence de Dieu pourra s'établir, demeurer sur nos maisons et s'étendre finalement sur le voisinage, jusqu'à aller dans les rues, dans nos rues. Si nous prions à travers tout le pays, alors le ciel s'ouvrira et nous serons témoins de la puissance de Dieu dans les paroisses comme dans le pays. Des temps viendront où nous marcherons dans les rues et le Saint-Esprit nous poussera à aller vers une personne précise pour lui parler. Car c'est instant qu'une onction est donnée. Si nous obéissons à Dieu, il agira. Des hommes seront guéris, libérés et amenés dans son royaume. Amen. Dieu veut atteindre cet objectif. Et il nous adresse cet objectif à nous ce matin. Pour cela, il faut se donner du temps. D'accord ? Il faut se donner plus que 5 minutes. Je vous rappelle ces deux objectifs. On peut terminer dans la prière peut-être. Je vous invite à vous lever et on va terminer dans la prière. J'espère que ce récit vous donne faim et foi. Non, c'est pas pour une élite. Non. J'entends tout de suite le démon qui dit « souffle ça peut-être oh, ». Non, c'est pas pour une élite. Non. C'est pour des hommes et des femmes simples que nous sommes. Ouais. C'est notre appel, c'est notre vocation. Le Seigneur est mort sur la croix pour qu'on remplisse ce ministère, de prier dans le lieu saint, dans le sanctuaire, et aller plus loin que le parvis. Seigneur, nous prions par rapport à ces deux objectifs. Un, tu nous as mis dans un corps. Seigneur, nous demandons pardon, vraiment, sincèrement, pour toute racine d'individualisme en nous. Et merci de ce que tu m'as parlé à travers ce songe. Et Seigneur, tu veux vraiment nous donner une plus grande révélation de ton corps. Nous voulons apprendre à voir cela, à ne plus être centré sur ce qui est notre appel spécifique, mais voir aussi l'appel que tu adresses au corps, à la communauté et au corps au sein de ma région, de ma nation. Seigneur, nous prions pour une grande révélation à ce sujet. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous rencontres. Si nous pouvons rencontrer Dieu dans le sanctuaire, nous ne serons plus les mêmes personnes. Et nous serons ces hommes et ces femmes. Le Seigneur me montrait ce matin dans la prière, alors qu'on priait dans la salle, le Seigneur me rappelait Josué. Josué qui était dans l'attente de la rencontre avec Moïse et qui était vraiment bouleversé dans l'attente de la rencontre. Habitué à voir Dieu, à voir Moïse rencontrer Dieu. Et Dieu a utilisé cet homme pour conquérir le pays. Le Seigneur veut nous rencontrer dans l'attente de la rencontre, veut qu'on soit ses Josué, pour qu'ensuite on puisse aller à la conquête vraiment du pays. Tu veux nous encourager, nous faire progresser étape après étape. Étape après étape. Peut-être même si... Donne-nous simplement d'avoir assez de foi, simplement pour dire, cette semaine, allez... Je vais prier pour ça, pour rentrer dans le sanctuaire. Je vais persévérer pour aller plus loin que le parvis. Je vais faire attention, m'éloigner du téléphone. Je vais me mettre dans un endroit où personne ne peut me déranger. Oui. Pour aller plus loin que le parvis. Seigneur, merci. Nous sommes remplis de foi et d'espérance en toi. Tu peux nous rendre capables d'atteindre ces objectifs, Seigneur. Amen.